Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Jason Ballon Rond, un autre épisode chargé avec un gros programme là, au menu du jour. C'est aussi le début du mois de décembre là, et donc le début du temps des fêtes. Et pour cela, on est avec Hans Junior Najime et Douali Ibrahim qui s'est auto-surnommé le GOAT de ce qu'on peut voir. Donc, les gars, comment ça va?
Ça va bien, vous autres, guys?
Yes.
Ça va, top shape.
Ouais.
Ouais, gros programme aujourd'hui. Puis bon mois de décembre à vous également, ouais. Là, au passage.
Merci, puis, toi aussi.
Merci. Donc, premièrement, CF Montréal, qui pas plus tard qu'il y a deux jours environ, a annoncé une vague de départ, puis aussi a mis au clair là, les joueurs qui restaient au club. D'abord, on a Romel Kyoto, qui est probablement le meilleur joueur du club là, dans les trois dernières années, là, depuis le départ de Piatti, là, qui quitte. Broguillard aussi, qui quitte, le Québécois Zachary Broguillard. Lui qui, je pense, voulait un rôle plus de partant, puis ne l'avait pas là, dans les dernières années. Donc, quitte. Et James Pantemis, un peu la même chose là, avec Jonathan Sirois, qui a pris la place de numéro 1. Peut-être que lui aussi, là, il voulait plus de temps de jeu et donc a quitté d'un commun accord avec le CF Montréal. Vos impressions sur ces départs, on va commencer par Hans.
Ouais, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais un peu surpris. Je voyais défiler les noms, puis je vois Sean Rea. Déjà, ça m'a beaucoup étonné. Un jeune formé à l'académie qui connaît très, très bien la ville, qui connaît bien l'équipe. Ça, je pense que c'est la plus grosse erreur de le laisser partir. C'est un gars qui avait beaucoup à donner. Puis, si on se rappelle, il était quand même dans le 11 partant dès le début de la saison. Donc, je pense que de ce côté-là, oui, il y a eu des frictions avec l'entraîneur. Puis, Olivier Renard a mentionné plus tard dans des conférences de presse que c'était pas seulement avec l'entraîneur, mais avec le club et les dirigeants et tout ça. Donc, peut-être une attitude problématique, mais je pense qu'on aurait dans son cas, peut-être pu attendre, essayer de l'encadrer un peu plus parce que dans le poste de numéro 10, qui n'est pas nécessairement occupé par Bryce Duke, je pense que Sean Rea avait son mot à dire. Mm-hmm. Après, pour les autres comme Broguillard, Pantémis, c'est normal pour eux comme joueur de soccer de vouloir plus de temps de jeu. Donc, c'est juste que c'est des noms que je ne m'attendais pas à revoir sortir. Puis après, je pense que Kyoto, on s'enlignait vers ça. Je pense qu'on pouvait tous s'attendre à ce qu'il parte. Il était déjà avec son ancien club, chez lui, en train de pratiquer et tout. Donc, il y avait plusieurs petits indices qui nous laissaient croire qu'il partait. Puis pour Jean-Aniel Assis, qui a quand même connu une bonne saison en CPL, je pensais peut-être le revoir dans les rangs du CF Montréal comme substitut, qui est en fin de match, qui est quand même assez rapide, assez technique. Donc, il peut donner un petit boost à l'attaque du CF Montréal. Puis après, pour Hamdi, puis Kouzeral, bon, c'est pas trop, je suis pas trop surpris, pas trop déçu. C'est des joueurs que ni chaud ni froid, disons.
En effet. Mais tu fais bien de mentionner Sean Rea totalement. Puis il devait vraiment avoir un problème au niveau de l'attitude, comme tu as dit, parce que c'est un joueur qui avait du talent. C'est un joueur que j'ai bien aimé voir en début de saison quand il obtenait des minutes. Mais oui, comme tu dis, probablement un problème d'attitude, mais je pense qu'il va avoir une bonne carrière en CPL là, s'il se dirige de ce côté-là. D'où un mot ajouté, peut-être sur Kyoto. Selon toi, est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est le meilleur joueur des dernières années pour le CF, selon toi? Là?
Ben écoute, honnêtement, depuis Piatti, possiblement, t'sais. Écoute, il y a quand même eu des bons moments avec le CF, surtout quand on passe... On peut faire abstraction de la saison 2023 parce qu'il a passé plus de temps sur la touche en raison des blessures, mais si on regarde sa saison 2022, saison absolument exceptionnelle. La saison 2021 aussi, il a été excellent. T'sais? Puis, depuis le départ de Piatti, si je ne me trompe pas, c'était en 2019?
En 2020, il a joué deux matchs, je pense.
Ouais, c'est ça, 2019-2020. En tout cas, depuis trois dernières années, c'est clairement le meilleur joueur que CF a eu. Mais écoute, c'est le départ de Kyoto, là, c'est pas vraiment une surprise. Là, quand on voit ce qui s'est passé son dernier avec le conflit qu'il a eu avec la SADA, ou même, je pense, plus loin que ça, là, même aussi avec l'état-major. Donc, écoute, je suis pas vraiment surpris, mais ça a quand même été le fun d'avoir joué Kyoto. Un gars qui est hyper passionné aussi. Puis, il avait quand même un caractère assez bouillant là, par moment. Là, ça lui arrivait des fois de s'emporter dans les moments un peu plus difficiles du CF. Puis, écoute, je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs de CF qui ont le caractère de Kyoto. Donc, ça, non seulement ses buts vont manquer probablement CF, mais également aussi son caractère qui, des fois, pouvait l'aider et des fois aussi pouvait le nuire. Donc, écoute, chapeau à Kyoto qui a quand même eu des bons moments avec le CF, mais c'est quand même dommage. Ça, écoute, je dirais sa fin de carrière avec Montréal.
Oui, c'est vrai qu'on aurait espéré une meilleure dernière année pour lui avec nous, puis avec le club, pardon, avec les services qu'il a rendus. Là. Mm. Tu l'as dit, il a soulevé les foules, les passions, Kyoto. Il était un joueur passionné aussi. Puis je pense vraiment que c'est un des grands là, dans la jeune histoire du CF Montréal en MLS. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du CF Montréal, derrière Divaio et Piatti, là, tout simplement. C'est 38 buts en 94 matchs. C'est bon pour le troisième rang là, derrière les deux gars que j'ai mentionnés. Donc, c'est quand même énorme là, comme statistique, le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe. Fait que oui, merci Rommel et à la prochaine. Puis comme Hans a dit, là, Pantémis et Brogaard, c'est assez comprenable, là, étant donné qu'il recherche des postes de partant. Sinon, on a aussi retenu les services de Logan Ketterer, le gardien, des défenseurs Torkelsen et Jabang, et de l'attaquant Ariel Lasseter. Ça, je pense que c'est bien de le garder, Lasseter, parce que c'était le gars le plus efficace sur le côté droit, là, à mon avis. Là. Ouais. On a encore Lapalainen aussi de ce côté-là, mais de garder Lasseter, je pense que même s'il n'avait pas la meilleure qualité de centre, là, on va se le dire, c'était lui qui était le plus efficace. Anne, tu veux-tu ajouter quelque chose là-dessus?
Ben non, je trouve que c'est des gars aussi qui méritent un peu leur... Pas qui méritent leur place, mais qui méritent encore de se faire valoir. Ils méritent une deuxième chance. C'est pas des gars qui vont nous... qui vont être dans 11 partants à chaque match, qui vont nous sauver les matchs, mais c'est des gars qui peuvent, par leur constance, avoir des belles performances. Puis sinon, ouais, je pense que... Là, c'est eux... Si je l'avais réparti, honnêtement, ça serait un peu déçu parce qu'il a quand même prouvé des belles choses. Pour les trois autres, je pense que aussi c'est plus comme un rôle de remplaçant qu'on va les voir. Mais pour Lasseter, je m'attendrai à ce qu'il soit partant dans quelques matchs.
Ouais. Puis Lasseter et Duke aussi, on a échangé Kamal Miller là, pour eux. Là. Donc, ouais, et de l'argent, donc on veut... T'sais, si on s'en débarrassait après une moitié de saison, ça aurait été un peu désastreux. Mais non, les deux sont toujours dans l'équipe. Puis, Douz, si tu veux faire des commentaires sur les 19 joueurs qui sont sous contrat présentement pour le CF Montréal. Jonathan Sirois, Fernando Alvarez, George Campbell, Gabriel Corbeau, Aaron Herrera, Joel Waterman, Mathieu Chouanière, Bryce Duke, Ilias Iliadis, Lassi Lapalainen, Samuel Piette, Nathan Saliba, Victor Wanyama, qui est toujours là pour le moment. On a Rida Zouir qui revient de près de CPL, qui a connu une bonne saison en CPL l'an dernier. Afor Opoku, ton cousin Ibrahim, Mason Toy et Jules-Anthony Vilsain. Bon, il va avoir des additions d'entre-saison. Qu'est-ce que la priorité, qu'est-ce qu'on doit aller chercher là, selon toi
La priorité, c'est pas compliqué, c'est le secteur offensif et qu'on n'a pas le choix. Écoute, l'année passée, le plus gros problème, c'était qu'il n'y avait pas de 10. Le CF n'a pas été capable de remplacer Jorge Mihailovic correctement. Ils n'ont pas été capables. Ils ont essayé avec Sean Ria, ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de changer la formation, je ne sais pas combien de fois, pour essayer de pallier cette absence-là. Déjà là, un numéro 10 va faire du bien. Également aussi, un numéro 9 aussi. Ça aussi, ça aiderait en attaquant. Je sais, Ali, tu n'es pas le plus grand fan de Chinozo Offer. Il pourrait être à la limite un bon substitut, là, mettons, d'un 10 ou 10 dans la minute, 10-15 dans la minute dans une rencontre, mais clairement qu'il n'est pas titulaire. Avec le départ de Kyoto, là, le CF a vraiment besoin de renforts à l'attaque. Là, c'est urgent parce que en ce moment, là, c'est, en tout cas, la saison dernière, ça a été extrêmement difficile au point où que, tu sais, le meilleur buteur du CF, la saison dernière, c'était Mathieu Chouanière avec 5 buts. Là. C'est pour vous dire à quel point c'est assez révélateur le manque de créativité à l'attaque du CF. Donc, pour moi, le secteur offensif, ça doit être la priorité de Montréal à coup sûr.
Ouais, tu as parlé de Offor comme remplaçant, mais moi, honnêtement, je mets Mason Toy ou Jules-Anthony Levilsain comme remplaçant. Là, admettons qu'on a un attaquant de pointe, là, ce qui est vraiment une nécessité, je pense, comme tu l'as dit. Là. moi, mon deuxième choix derrière cet attaquant-là, ça ne sera pas fort, là, clairement. Là, j'irai avec Vilsain ou Toy. Puis il ne faut pas oublier qu'on a Pocou là-dedans, là, qui peut être. Qui va probablement prendre la place d'ailier. Sinon, au milieu de terrain, ça me semble pas si pire. T'sais, je pense que le milieu de terrain, si on est capable de garder Wanyama puis de le faire jouer, contrairement à ce que le Sadan ne faisait pas, en fait. On a Zouir qui revient, qui a connu une bonne saison, qui pourrait être un cas intéressant. Chouanière, qui est un indiscutable. Piette aussi, Saliba aussi. Là, ensuite, c'est ça. Là, il y a Wanyama qui, s'y reste, doit jouer. Et il y a Rizda Zouir qui revient aussi. Puis il y a toujours des joueurs, des Bryce Duke qui peuvent progresser. Lapalainen, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'une addition en milieu de terrain, ça c'est quelque chose de nécessaire, Hans, selon toi?
Nécessaire, oui. T'sais, dans la liste des 19, moi, je trouve que c'est ça envoie un message comme quoi c'est avec eux qu'on veut continuer à bâtir le club. Ça va être eux, nos cadres. Dans le milieu, peut-être, je dirais un milieu qui peut jouer 8 puis 10. Un gars plus polyvalent, mais vers l'offensive, parce que on a vu Nathan Saliba peut jouer plus comme 6. Sinon, il y a Wanyama puis il y a Piette. Rida Zouir, qu'est-ce que j'ai vu en USL cette année quand il était au Texas, c'est que une fois qu'il a la chance de se porter vers l'avant, il est capable de faire beaucoup de dommages. Puis il a même dit en entrevue qu'il y a un très très bon tir, puis on l'a vu dans ses highlights justement. Donc je pense que oui, ce serait bon d'avoir un autre milieu offensif. Mais aussi de donner la chance aux jeunes qu'on a déjà, puis comme Zouir, de se prouver à ce poste-là. Mais c'est pas nécessairement important dès le début de la saison d'avoir un 10 sur lequel on peut faire confiance. Je miserais plus sur un attaquant, un finisseur dans la boîte, puis peut-être un arrière latéral de confiance aussi, surtout à gauche, je dirais. Là. Bon, gauche, même si on a Fernandez, là, mais.
Alvarez,
je le trouve un peu moyen là, pour l'instant.
Ouais, puis merci de me corriger. Tu as dit Zouir qui venait de la UCL, j'avais dit CPL, c'est mon erreur. Ouais. Mais ouais, donc voilà, lui, ça va faire du bien de le revoir, Zouir, surtout s'il est capable d'enchaîner avec sur sa bonne saison. Puis ouais, en effet, là, en défense, je pense que Campbell, Corbeau, Waterman, ça peut, et Alvarez, comme tu as nommé, ça peut être pas pire. Herrera, je pense que c'est un très bon défenseur latéral, là, puis qui a le dessus sur Brouillard, donc c'est logique qu'on ait laissé partir Brouillard. Mais je pense qu'il va falloir une doubleur de ce côté-là, quand même. Puis de l'autre côté également, là, je pense qu'on est plutôt faible. Donc moi, j'irai avec un ou deux attaquants facilement. Peut-être une signature au milieu de terrain, puis en défense, ça nous prend des doubleurs. De ce côté-là, moi, je pense que c'est à ça que ça devrait ressembler, là, le mercato du CF Montréal. Oui. Maintenant, pour le coach, est-ce que c'est important pour vous que l'entraîneur soit choisi bientôt, là? Mettons avant 2024. Mettons d'où, pour toi?
Écoute, si c'est pas à la fin du mois de décembre, au moins début du mois de janvier, là, ce serait une bonne idée. T'sais, avoir un entraîneur peut-être deux mois ou un mois et demi avant le début du camp d'entraînement, tu sais, ce serait une bonne chose. Comme ça permettrait à l'équipe d'être fin prête. Puis aussi, ben écoute, aussi, ça va permettre au CF de ne pas être trop désorienté. Puis le but, là, écoute, là, c'est il faut que tu aies un entraîneur qui écoute ses joueurs. Le problème avec le Sada, c'est ça qui a été reproché, c'est que au final, oui, le Sada, techniquement, il n'était pas si peu que ça, mais il avait beaucoup de difficultés au niveau de la communication avec les joueurs. Puis moi, je pense que si ça arrive plus tôt, au moins les joueurs peuvent s'attendre à savoir qui est cet entraîneur-là, puis pas avoir des discussions entre eux. Fait comme ça, tu n'arrives pas à des situations comme on a vu lors du bilan de saison où c'était le pire malaise probablement que j'ai vu dans l'histoire du sport professionnel où que tout le monde s'envoyait des flèches. Donc, mais pour répondre à ta question, je pense que honnêtement, si ce n'est pas à la fin de ce mois-ci, au début du mois de janvier, je pense que ce serait l'idéal pour le CF d'aller chercher un nouvel entraîneur. Puis, écoute, je ne sais pas ça va être qui le prochain entraîneur de CF Montréal, mais au moins un entraîneur avec quand même de l'expérience en MLS.
OK. Toi, c'est quelque chose qui est une nécessité, qui a de l'expérience en MLS. Mettons un Bobby Smirignotis de Forge, ça serait pas une option?
Ouais, ça pourrait être une option aussi, mais je dis juste que t'es... je sais pas, t'es, c'est pas la même réalité, l'Europe puis la MLS. C'est surtout pour ça que je disais ça. T'es...
Si au moins tu as l'expérience, ça aide. La CPL puis la MLS?
Ah oui. Merci, oui, la pression. Mais Merci de la pression, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Ouais.
Ben, c'est sûr que Forge a été la meilleure équipe de Spiel de Bain. Probablement la meilleure équipe en termes de constance dans la Spiel depuis le début de la ligue. Ouais. Fait que puis j'ai de la misère à le prononcer, Smyrniotis, je pense c'est le même, a été genre un pilier pour cette équipe-là. La seule affaire, c'est comme tu l'as dit, il n'a pas d'expérience de la MLS et aussi il ne parle pas français. Ça pourrait être un problème également. Toi, Hans, est-ce qu'on doit le choisir bientôt, ce nouveau coach?
Ben, moi, je dirais le plus tôt possible. Comme Do a dit, si c'est pas avant le temps des fêtes, c'est directement après. Juste pour donner une idée aux joueurs dans quelle direction on va, avec qui on va. Puis c'est aussi d'établir un système propre à l'entraîneur dans lequel on va jouer. Parce que qu'est-ce qui serait le pire pour cette équipe, c'est d'embaucher un entraîneur trop tard avant le début de la saison. Puis rendu au premier match de la saison, c'est d'aller avec une formation qu'on n'est pas sûr qui va nous apporter des résultats, mais qui est genre la plus probable. Donc, il faut avoir un 11 partant qui va être solide dès le début, qu'on se dit que c'est avec eux qu'on va essayer de gagner au lieu d'essayer encore des options en début de saison. Donc, d'après moi, il faudrait le choisir très bientôt. Je pense que la direction du CF est en train de chercher ça. Peut-être qu'ils ont déjà des candidats en liste là, qui vont viser. Mais pour les joueurs, pour le club et pour la prochaine saison, là, qui est quand même assez importante après tout ce qui s'est passé, je pense que l'important, c'est vraiment de trouver un coach. Puis en même temps, avec le coach, on pourrait choisir des nouveaux joueurs à signer. Puis on sait dans quelle direction on s'en va avec le club.
En effet, ben, tu as dit peut-être qu'on a des candidats en liste en ce moment. J'espère qu'on a des candidats en liste en ce moment, là, parce que sinon, ça ne va pas bien. Mais... puis aussi, tu as parlé des nouveaux joueurs que le coach aurait son mot à dire. Je pense que c'est ça l'an passé, l'erreur qu'on a fait avec Losada, c'est que, tu sais, mettons un Bryce Duke, c'était pas nécessairement dans les plans de Losada, de ce que j'ai compris, c'était dans les plans de Nancy, donc de l'ancien coaching. Et là, ben là, ça va être très important avant le début de la saison de concerner le nouvel entraîneur dans les plans, dans le mercato, ce qu'on n'a pas fait l'an dernier. Ouais. Si je ne me trompe pas, Losada avait été embauché autour du 20 décembre l'an dernier, donc dans quelques semaines, là, ça serait la même chose qui se produirait si c'est à ce moment-là qu'on embaucherait un entraîneur. Puis même à ça, même si c'était quand même assez d'avance par rapport au début du camp d'entraînement, il n'avait pas été tant que ça impliqué dans les choix tactiques, ce qui est une erreur tant qu'à moi. Et j'espère que le CF Montréal ne va pas reproduire cette erreur-là. Donc, merci tout pour le CF Montréal. On va y revenir durant cette entre-saison fort probablement, avec l'embauche d'un nouveau coach, entre autres. Maintenant, en MLS, les séries, la saison n'est toujours pas finie. En effet, ça continue longtemps, cette saison-là de MLS. Les demi-finales qui étaient cette fin de semaine, en fait. Le Crew de Columbus, premièrement, qui a remporté tout un match contre le FC Cincinnati. Cincinnati qui était premier là, en MLS. S'est incliné 3-2 après avoir mené 2-0. Quelle performance du Crew de Columbus qui est coaché par Wilfried Nancy, l'ancien du CF Montréal, qui compte également Rudy Camacho dans ses rangs, ancien du CF Montréal aussi, et un Québécois, Mo Farsi aussi. Je sais que vous n'avez pas vu la game, les gars, mais est-ce que c'est une surprise pour vous que le Crew passe en finale de la MLS Cup, Dou?
Non, pas tant, parce qu'au final, pour moi, je voyais deux équipes, je voyais... le Crew de Columbus et l'équipe qu'ils ont affronté, Cincinnati, qui a quand même terminé premier au classement général dans l'Est, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, Cincinnati a fini au top de la MLS cette saison. Mais bref, pour moi, c'est une de ces deux équipes-là. Donc, il n'y a pas tant de surprises par rapport à ça. C'est sûr que c'est triste de voir l'ancien entraîneur-chef du CF et l'ancien. Défenseur central, un morceau quand même assez important, Rudy Camacho se rend en finale de la MLS même pas un an après leur départ. Là. Puis même Rudy Camacho, il est parti.
Triste ou.
Non, mais je parle triste pour nous à Montréal. Nous à Montréal, je parlais plus pour notre cas, pas pour eux. Là. C'est tant mieux que.
T'es pas fier pour eux,
Non, écoute. Je vais rectifier, ok? Je disais que. C'est triste pour quand on voit à Montréal que finalement Wilfred Nancy, dès qu'il part de Montréal et qu'il va à Columbus, ben, il réussit à qualifier son équipe pour une finale de la MLS Cup. Et peut-être qu'il veut la gagner, qui sait, hein? C'est pas impossible. Donc ça, c'est fou. Puis, oui, je suis content pour eux parce que, écoute, Columbus, c'était une des belles équipes dans l'Est et même dans la Ligue. Donc, c'est bonne nouvelle. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment de surprise pour moi. Là. C'était vraiment les deux équipes favorites dans l'Est pour se rendre jusqu'au bout. Là. Avec Philadelphie.
Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Hans, tes impressions sur ce match complètement fou quand même.
Ben oui, je vois que ça s'est joué jusqu'à la dernière des minutes. Là. Ça a été un match qui était quand même excitant parce qu'on marque à 86e, puis là on va dans les prolongations. Donc, gros match de Columbus, je ne dirais pas que c'est une surprise de les voir là. Tant Cincinnati que Columbus aurait pu se rendre en finale. Le meilleur a gagné. Puis comme Doul dit, c'est dommage. Ben, pas dommage, encore une fois. Je suis content pour Nancy parce qu'il a prouvé que c'est un bon entraîneur. Mais du côté de Montréal puis de la direction, on peut s'en mordre les doigts parce qu'on a laissé partir un entraîneur qui avait les qualités pour mener ce club-là très, très loin, comme il l'a fait avec le Montréal l'année passée. Je pense que si on avait été plus patient, qu'on l'avait écouté puis qu'on lui avait donné ce qu'il voulait, dont les joueurs et tout ça, je pense qu'on n'aurait pas vécu la saison qu'on a eue avec le CF Montréal. Donc, bravo à Columbus, il le mérite. Bravo à Nancy. Puis Mo Farsi aussi, joueur québécois qui vient d'ici ouais. Et qui sera en finale. On sera bien représenté avec Crépeau aussi, avec le Sénégal. Ouais. Donc, oui, on peut être un peu triste du côté de Montréal, mais au niveau québécois, on devrait être content parce qu'on a quand même deux produits d'ici qui s'en vont disputer une finale de MLS. Donc, il y a du positif à retenir là-dedans.
Certainement. Puis côté Québec, tu l'as dit, on a Nancy, premièrement coach, et un joueur de chaque côté en Crépeau. Et Mo Farsi, donc cette finale-là, c'est le 9 décembre prochain, 4 heures, je pense, donc en après-midi, donc allez regarder ça. Puis rapidement, là, qui est-ce qui va remporter cette MLS Cup? Moi, je vais dire mon pronostic. LAFC a battu le Dynamo Houston sans grande surprise, honnêtement. Mais si tu regardes le classement MLS, l'Est a été vraiment plus relevé que l'Ouest cette année. Si le LAFC était dans l'Est, il aurait terminé au 7e rang de l'Est avec 52 points. Donc, ça montre comment l'Est était beaucoup plus relevé. Pour ça, moi, je donne un avantage à Columbus, qui a eu un parcours plus difficile. Tu sais, victoire de peu contre Cincinnati. Ils ont eu une victoire à l'arraché aussi, plutôt dans ces séries-là. Je ne me rappelle plus exactement c'était contre qui. Mais je pense qu'ils vont être capables de tenir le coup. Et avec le parcours difficile qu'ils ont eu, l'expérience des séries qu'ils ont eu, ils sont peut-être une équipe un peu plus rodée, un peu plus prête pour cette finale-là que les LFC, qui l'a peut-être eu un peu trop facile. Ça peut être un piège, ça, des fois. Donc, moi, je vais aller avec le Crew de Columbus, mais ce sont deux équipes extrêmement talentueuses. D'où ton pronostic pour cette finale?
C'est pas évident, mais je pense que je vais aller avec les LFC. Les LFC est quand même une équipe qui est expérimentée. Elle a quand même gagné la MLS Cup il y a 2-3 ans.
L'an passé.
C'était l'an passé.
Ah oui, Garrett Bell.
Ah oh, ouais, c'est ça, Garrett Bell, oui, c'est ça. Ou que Crépeau s'est cassé la jambe sur un carton rouge assez spectaculaire, là, mais bref. Mm-hmm. Ouais, ben écoute, c'est quand même l'équipe championne en titre. C'est une équipe qui est très expérimentée. Puis moi, je pense que l'expérience aide souvent les équipes à s'en sortir, surtout dans les moments un peu plus difficiles. Donc, écoute, oui, c'est vrai que techniquement, l'Est était beaucoup plus relevé que l'Ouest, ça, c'est vrai, mais je vais quand même y aller avec l'équipe championnat de titre. Je pense que l'FC va gagner la MLS Cup. Puis, écoute, j'espère que ça va être un match aussi spectaculaire que l'année passée. Hein.
On le souhaite. Hans?
Ouais, moi, je pense que j'irai avec Columbus parce que, justement, ça a été plus relevé dans l'Est que dans l'Ouest. Columbus a dû faire face à plus d'adversité, je dirais, que Los Angeles, sans leur enlever de crédit ou quoi que ce soit. Mais je pense que ce parcours-là, qui a été plus difficile, a uni plus Columbus, puis qu'en finale, ça va vraiment plus se jouer sur qui la veut plus, justement. Puis Columbus a travaillé fort pour venir jusqu'ici. Donc, je dirais avantage Columbus. Aussi, ça ne sera pas un match, je pense pas un festival offensif, mais il y aura beaucoup de beaux jeux de chaque côté. Donc, de justesse, là, je dirais Columbus.
Oui, on a. Si on voit. On pourrait avoir tout un spectacle. Un Cucho Hernandez, Diego Rossi, là, qui est rendu à Columbus, qui va jouer contre son ancienne équipe. De l'autre côté, on a un Giorgio Chiellini de 39 ans qui tient encore le fort pour les LFC. Carlos Vela, Denis Bouanga. Il y a du spectacle à prévoir. Et je souhaite surtout à Maxime Crépeau de ne rien se casser dans cette finale. on lui souhaite. Là, puis, voilà. Donc maintenant, ça fait le tour pour la MLS. Les gars, passons à l'Europe et même à l'Euro avec un tirage qui avait lieu hier, donc samedi. Et bon, ça a été un tirage assez satisfaisant, je dirais. Pas vraiment de groupe de la mort, tant qu'à moi, mais on peut aller examiner les groupes un par un. Le groupe A, premièrement, Allemagne, Écosse, Hongrie et Suisse. Je trouve personnellement que c'est un groupe extrêmement ouvert dans le sens que tout le monde peut se qualifier dans ce groupe-là, j'ai l'impression. Parce que l'Allemagne, oui, elle est favorite, mais elle n'a vraiment pas eu des bonnes qualifications. C'est vraiment à cause qu'elle était le pays hôte. C'est pour ça qu'elle était dans le chapeau 1 et rien d'autre, là, parce que ses qualifications ont été horribles. Et moi, je vois l'Écosse, je vois la Suisse, je vois les trois autres pays pourraient passer. La Hongrie, là, qui est menée par Szoboszlai presque uniquement, là, je dirais, là, joueur de Liverpool. Mais l'Écosse, qui est un collectif quand même assez fort, je pense. Puis la Suisse, ça reste la Suisse. Comment vous abordez ce groupe-là? On commence par d'où?
Ben, écoute, tu l'as mentionné, le problème avec l'Allemagne, c'est qu'ils ont tellement eu des qualifications difficiles. Pour vous dire, en 2023, l'Allemagne, là, c'est seulement 3 victoires en match international. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est pas assez. En tout cas, ça n'a pas super bien été. Mais le problème avec l'Allemagne aussi, c'est qu'ils ont des armes incroyables. Si on regarde le milieu de terrain, là, si on regarde mettons avec Moussiala, qui est absolument incroyable à la Coupe du Monde, t'as des Kimmich, t'as Kundogan, t'as Goretzka, c'est quand même un milieu qui est presque celui du Bayern de Munich, là, mais quand même, t'as une équipe de l'Allemagne qui se passait de dominer, mais il y a deux problèmes. Le problème, c'est vraiment leur constance. Ben, leur inconstance, pardon. Puis écoute, ils ont dégagé Hans Flick. Puis là, c'est Nagelsmann qui est rendu entraîneur-chef de la sélection Allemagne. Mais tu sais aussi, en même temps, dis-toi que si l'équipe d'Allemagne ressemble à celle du Bayern de Munich, puis on connaît les difficultés que Nagelsmann a eues avec le Bayern de Munich, ben. Au final, est-ce que ça va tant réussir que ça? Ça reste à voir. Puis l'autre problème majeur également, c'est du côté de l'Allemagne, ils n'ont pas de numéro 9. Ils n'ont pas d'attaquant de pointe.
Ouais. Donc, ils ont Füllkrug, mais Füllkrug, c'est pas lui que tu veux. Là.
Non, c'est ça. Donc, puis écoute, il y a beaucoup de gens qui pensaient que Timo Werner allait devenir un grand attaquant de Rome, mais malheureusement, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, non, je suis 100% raison, je suis 100% en accord avec toi, Ali. C'est un groupe qui est extrêmement ouvert. Même que, écoute, honnêtement, je pourrais voir les quatre. Ben peut-être, je suis peut-être le seul qui ne croit pas vraiment à l'Écosse. Là. L'Écosse, je ne sais pas trop. Là. Je ne suis pas sûr. Mais peut-être la Suisse, peut-être même la Hongrie pourrait terminer premier du groupe. Mais c'est clair que, écoute, l'Allemagne, normalement, devrait terminer premier du groupe. Là, normalement, c'est quand même l'Allemagne. Ça reste quand même. Normalement, là, à 100%, l'Allemagne, c'est le top 5 européen.
Ouais, Hans?
Ouais, justement, tu as dit que c'est l'Allemagne, c'est le pays hôte. Donc, je pense que soulevé par la foule, par l'énergie de la foule, ça devrait peut-être combler le manque de profondeur de l'équipe puis les aider à finir premier. Ça sera plus compliqué dans les phases éliminatoires, ça c'est sûr. Mais l'Allemagne doit finir premier de ce groupe-là. Comme déjà que tu es à la maison, puis qu'au niveau de ta formation, tu es légèrement au-dessus. Je m'attends à finir premier. Ce ne serait pas une surprise s'ils finissent deuxième, mais je les vois finir premier. Après, c'est là que ça se complique. L'Écosse, qui a son mot à dire, comme l'Hongrie et la Suisse, ça va vraiment jouer sur qui va battre l'Allemagne, surtout, qui va arracher des points à l'Allemagne. Puis après, je dirais entre la Suisse et l'Écosse, plus un faible vers la Suisse. Donc, je verrais Suisse et l'Allemagne passer vers les prochaines rondes.
Ouais, la Suisse, historiquement, a plus de succès internationalement, j'ai l'impression, là, avec un Xherdan Shaqiri, entre autres, qui a été sensationnel dans les dernières éditions d'Euro ou de Coupe du Monde. Granit Xhaka aussi, qui va être de retour, je pense, avec la Suisse. Bref, un groupe quand même intéressant, mais je suis d'accord avec vous, l'Allemagne doit finir premier, surtout devant ses partisans. Ce serait catastrophique si elle ne se qualifiait pas. Le groupe B ensuite, groupe B qui, je pense, c'est le groupe qui ressemble le plus à un groupe de la mort, là, avec Espagne, Italie, donc les champions en titre de l'Euro, rien de moins, qui étaient dans le chapeau 4, donc eux non plus. Là, ça n'a pas été des qualifications faciles du côté de l'Italie. Mais l'Espagne qui va quand même bien, une équipe assez jeune là, de l'Espagne, Lamine Yamal, Pedri, bon, Gavi est blessé, mais c'est du renouveau. Il n'y a presque aucun joueur là, du recul de 4 ans à peu près. C'est une équipe presque totalement différente là, du côté de l'Espagne. Croatie aussi, qui a encore eu du succès lors de la dernière Coupe du Monde, qui pourrait encore faire des ravages, même si c'est une équipe de plus en plus vieillissante pour la Croatie. Et tu as l'Albanie aussi dans ce groupe-là qui je leur souhaite bonne chance parce que je vois mal comment ils pourront se qualifier. Mais pour moi, ça reste Italie et Espagne là, qui sont les deux favoris, même si ça a été difficile pour l'Italie. D'où, est-ce que c'est le groupe de la mort, premièrement, là, selon toi?
Ben, je pense que oui. Hein. Oui, la Croatie est une équipe vieillissante, mais reste que c'est quand même la Croatie. C'est quand même une équipe qui était demi-finaliste de la Coupe du Monde l'année dernière, puis qui a quand même fait une finale il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 ans déjà. Donc, c'est une équipe qui a quand même des gros joueurs. Intéressant. Moi, je suis vraiment curieux de savoir qui le général du côté de la Croatie. Est-ce qu'il va encore faire confiance à Luka Modric vieillissant? Ça va être vraiment quelque chose que je vais surveiller avec beaucoup d'attention. Également aussi du côté de l'Espagne, tu as mentionné une équipe d'Espagne transportée par la jeunesse, transportée par l'avenir du FC Barcelone. On passe à Pedri. Malheureusement, Gavi ne sera pas là en raison d'une blessure grave, des choses du gamin croisé intérieur. Fait que ça, c'est pas une blessure qui est joyeuse pour n'importe quel athlète professionnel. Également aussi, tu as Lamine Yamal. T'as Alejandro Balde aussi qui est un autre bon espoir de FC Barcelone. Également aussi, t'as un Rodri au milieu. Ça aussi, ça va être intéressant de voir. J'ai hâte de voir ça va être quoi le rôle de Rodri. Est-ce que ça va être lui le général de cette équipe-là, de cette équipe d'Espagne? Écoute, ça va être intéressant, encore une fois. Mais écoute, l'affaire, c'est qu'on sait comment c'est avec l'Espagne. Hein. Tu sais que... En tout cas, l'équipe qui affronte l'Espagne sait que les Espagnols vont avoir comme 65% de possession de balle, mais moi, j'ai hâte de voir comment ils vont régler leurs problèmes de finition. On voit qu'Alvaro Morata, cette saison avec l'Atlético Madrid, ça va beaucoup mieux au niveau de sa finition, mais même là, souvent, ça a manqué de finition à son dernier. Au cours des dernières années, notamment en Coupe du Monde, où qu'ils sont capables, on sait qu'ils sont capables de contrôler le ballon, on sait qu'ils sont capables de faire des passes, mais est-ce qu'ils sont capables de compléter leurs opportunités, qui sont capables de créer des opportunités qui vont mener à des buts. Moi, c'est vraiment là que j'ai hâte de voir du côté de l'Espagne. Puis, rapidement, du côté de l'Italie, écoute, c'est une équipe de l'Italie qui n'aura pas le choix de se faire pardonner. Ils ont quand même pas... Leur dernière Coupe du Monde, c'était en 2014. C'est pour vous dire à quel point ça fait un bout que l'Italie ne s'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Puis, on parle quand même de l'équipe qui est championne en titre. Donc, l'Italie n'aura pas le choix d'avoir un bon tournoi, à mon avis. Là, surtout que rater deux Coupes du Monde consécutives quand tu es une des équipes les plus titrées de l'histoire de la Coupe du Monde, ça passe pas mal moins bien.
Ouais, il faut que tu aies un bon euro pour te faire pardonner. Puis l'Espagne, tu as parlé de la finition, vraiment, là, ça va être un enjeu de taille. C'est un problème qui est récurrent pour les Espagnols. Tout le temps, offre souvent du beau jeu, mais rarement capable de. Pas toujours capable de finir. Hans, toi aussi, tu penches vers Espagne et Italie?
Non, moi, je pense plus vers Espagne puis Croatie.
Oui,
c'est vrai que la Croatie, c'est une équipe vieillissante, mais qui ont, tu sais, à la Coupe du Monde, si c'était pas de Messi, là, ils n'ont pas fait un parcours dégueulasse. Je trouve qu'ils ont fait du beau jeu encore une fois. Puis je trouve que aussi, c'est la dernière chance de Modric internationalement, de Mandzukic, Perisic, tout ça. Donc, épauler des jeunes comme Livakovic dans les buts, Vardiol en défense centrale, je pense qu'ils peuvent passer ce pool-là avec l'Espagne. Puis pour l'Espagne, c'est ça, c'est vraiment en avant. Il faudra finir les actions devant le but. C'est bien jouer au ballon, mais qu'est-ce qui gagne le match, c'est des buts. Donc, Alvaro Morata, puis des élites qui vont commencer. Je ne sais pas s'il y aura Ferran Torres ou Lamine Yamal ou peu importe.
Ferran Torres, on ne l'a pas nommé, mais tu as raison. Hein.
Mais il faudra vraiment marquer des buts. Du côté de l'Italie, tu sais, je pense que le groupe n'est pas encore prêt à passer à la prochaine étape. Le joueur clé à surveiller sera Chiesa sur en attaque. Mais ouais. Je pense qu'il y a des plans de match qui vont s'établir du côté de chaque formation. Puis je vois mal l'Italie vraiment devancer la Croatie, l'Espagne. Ça se peut. Ça va être le groupe le plus difficile, là, c'est sûr. Je vois l'Espagne, la Croatie. Mais le deuxième, c'est, ça va se jouer pas beaucoup là, dans les points. Ça, c'est sûr.
Ouais, tout à fait. Moi, j'aurais tendance à y aller avec Espagne et Italie, mais c'est vrai que l'Espagne, c'est pas nécessairement la même formation qui a remporté l'Euro 2021. Alors, ça va être à voir. Mais la Croatie, j'ai de la misère. Mais t'as nommé Mandzukic. Mandzukic va être à l'Euro.
Non, ça se peut, je l'ai dit, mais non, peut-être pas lui. Là.
Mandzukic,
mais...
il est pas à la retraite?
Perisic sera là, ça c'est
ouais,
ça.
C'est ça. Perisic sera là, ouais. Okay. Puis Rakitic est à retraite internationale aussi, je pense. Hein.
Ça se pourrait, ouais. Je suis pas certain. Faudrait que je vérifie.
Parce qu'il me semble qu'il n'était pas là à la dernière Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Mais bref.
Ouais, Mandzukic est à la retraite depuis 2 ans, en passant. Ouais.
C'est ça. Voilà. Ouais. Puis Rakitic, il me semble aussi qu'il n'était pas. Qui est à la retraite internationale. Mais bref. Groupe C, maintenant, les gars. Avec un groupe C qui est assez fort aussi, je trouve, là, personnellement. Là, Slovénie, bon, c'est pas eux autres la puissance là-dedans. Ensuite, Danemark, Serbie, qui sont deux équipes intéressantes. Danemark, on sait, dernier Euro, ils ont été l'équipe coup de cœur. Et puis, la Serbie, qui quand même le compte sur un Vlahovic, sur un Mitrovic. Bon, Mitrovic, il joue en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il va être de l'Euro? Il va très bien là, avec Al Hilal, là, donc j'imagine que oui. Il y a un autre joueur aussi Milinkovic-Savic, lui aussi c'est un autre Serbe qui joue à l'Hilal donc la Serbie là, pourrait être une équipe assez je pense qu'on la sous-estime souvent mais en attaque avec Vlahovic et Mitrovic ça peut être assez dangereux sinon on a l'Angleterre bien entendu la grosse puissance de ce groupe-là l'Angleterre, est-ce que c'est l'année de l'Angleterre finalement? Ben, avec Jude Bellingham et Harry Kane sont en grande forme. Ça se pourrait, qui sait, mais je sais que Dwali n'est pas un grand fan de Gareth Southgate. Donc, parle-moi un peu de l'Angleterre, d'où?
Écoute, tu l'as bien lu sur mon visage. Écoute, Southgate est l'ennemi numéro un en Angleterre. Je vous dis, si l'Angleterre ne gagne pas, il y a une seule raison, c'est Gareth Southgate. Ça ne va pas plus loin que ça. À un moment donné, écoutez, l'équipe d'Angleterre, tu retrouves avec tellement de beaux joyaux en ce moment. T'as Joe Bellingham qui est dans une forme resplendissante. T'as Harry Kane qui est dans une forme resplendissante. Les deux en ce moment, ces deux joueurs-là font partie du top 3 de la planète selon moi en ce moment. Avec Erling Haaland qui ne sera pas de l'Euro malheureusement. Ouais. C'est un autre bémol à racheter sur ce tournoi-là. Et bref, ils se retrouvent quand même. Ils ont quand même une belle génération du côté d'Angleterre à l'été. T'as Bukayo Saka, t'as Phil Foden. J'ai hâte de voir si le retour de blessure de James Maddison. S'il est capable d'être le James Maddison qu'on a vu en début de saison à Tottenham. Lui aussi, il risque d'être un titulaire quand même assez important. Tu as Declan Rice en arrière. Évidemment, il ne faut pas oublier de mentionner les Marcus Rashford. Est-ce que Raheem Sterling, on va le voir à l'Euro, lui qui avait été laissé de côté récemment lors des matchs amicaux en Angleterre. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire partie de cette équipe-là.
Est-ce qu'on va voir Grealish?
Est-ce qu'on va voir Jack Grealish aussi? Jack Grealish, d'après moi, il va être dans la formation, mais titulaire, je suis moins certain là-dessus. Par contre, le problème avec Southgate, c'est qu'il a tendance à titulariser des joueurs qui ne méritent pas d'être titulaires. Kevin Phillips qui ne joue jamais à Manchester City, Jordan Henderson qu'on pourrait voir également aussi qui joue en Arabie Saoudite, et il y a un problème en défense. Voir un Maguire qui, je le sais, cette saison joue mieux à Manchester United, mais reste quand même qu'il n'est pas supposé être titulaire. Est-ce que Harry Maguire est un des meilleurs défenseurs en Angleterre? Absolument pas. Mais c'est Gareth Southgate, il va trouver un moyen de titulariser. Puis évidemment aussi, tu as le côté droit de l'Angleterre qui est absolument incroyable. Tu as un Kyle Walker qui fait un sale boulot. Mais si jamais Kyle Walker ne peut pas être là, tu te retrouves avec Alexander Arnold, tu te retrouves avec Reece James, tu te retrouves même avec Trippier. Même
là, tu parles à gauche. Là.
À droite.
Oui, à droite. Excuse-moi.
Puis également aussi, j'ai oublié de mentionner, mais même Wan-Bissaka aussi pourrait à la limite.
Ouais, ben avec il y a Reece James aussi que tu n'as pas nommé. Hein?
Oui, j'ai nommé Reece James. Alexander Arnold. Ouais. Ben là, tu as Walker qui va être titulaire indiscutable. Tu as même Trippier aussi qui pourrait être dans la formation. Donc, quand même, l'équipe d'Angleterre se retrouve quand même avec une belle génération de joueurs, mais le problème, encore une fois, je vous dis, le problème, c'est Gareth Southgate. À mon avis, il ne gagnera jamais rien avec Southgate. À coup sûr.
Eh bien, ce sera à voir, mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi de mettre Maguire sur le banc, puis de. Donc, ça nous laisserait une défense centrale de Stones et Walker, ce serait ça?
Non, mais même pas. Pourquoi un gars comme Tomori n'est pas dans l'Angleterre?
Tomori, oui, ouais,
Tomori. C'est ça le problème. Un gars comme Tomori,
ouais. Mais sinon, Walker est utilisé en défense centrale. Fait que je pense que ça pourrait être
confié.
Ben oui, c'était-tu au dernier Euro ou est-ce que c'était à la Coupe du Monde? Bref. Mais sinon, parce que c'est ça, de comme tu l'as dit, le côté droit est complètement. Et il y a tellement d'options. Là, tu l'as dit, Arnold, Reece James, Trippier, tu l'as dit. Peut-être qu'on va pouvoir déplacer Trippier à gauche même. Là, bref.
Ben, Luke Shaw risque d'être titulaire, par contre, là, je pense. Ça va être un Luke Shaw ou peut-être un Chilwell aussi là, qui peut.
Chilwell, vraiment pas un fan.
Non, mais c'est
excuse-moi.
Non, c'est correct.
Mais ouais, la défense de l'Angleterre, il y a vraiment de quoi à faire là. Puis pas sans avoir besoin de mettre Maguire. Le milieu de terrain, tu en as parlé aussi, qui est assez garni. Sinon, Hans, toi, si tu veux un mot sur l'Angleterre, si tu veux aussi, mais ensuite, qui prendrait la deuxième place de ce groupe-là, le Danemark, la Serbie?
Ouais, ben, pour répondre vite, là, deuxième place, j'hésite entre la Serbie et le Danemark. Je me pencherais plus vers la Serbie. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus ce côté de Arne de la Serbie qui peut-être les ferait passer devant. Pour l'Angleterre, moi, je vois ça comme une dernière chance de Southgate de se prouver. C'est sûr que l'Euro 2021, ça n'a pas été chanceux. Ça s'est fini en penalty. Donc, oui, c'est dommage. Mais avec l'équipe qu'ils ont, avec tous les jeunes joueurs qui sont à leur plein potentiel, comme Doady, Bellingham, Saka qui est extrêmement fort sur le côté droit, je pense pas que... En bas d'une finale, je pense que ce ne serait pas assez. Il faut que cette équipe-là gagne ce tournoi ou du moins est en finale. Pour les postes, justement, je pense que le côté droit, on va mettre Trent au milieu. Il va plus être dans le milieu. On va laisser la place à Walker puis Reece James. Côté gauche, c'est sûr, Luke Shaw. Ça reste à voir qui d'autre. Puis au milieu, dans la défense centrale, justement, c'est sûr que John Stones est partant s'il n'y a pas de blessure et tout. Mais Maguire devrait être sélectionné, mais pas être partant. Juste pour son
il va être partant. C'est malheureusement, c'est ça qui va arriver. C'est Gareth Southgate. Il va être titulaire indiscutable. C'est ça que je vous dis. Genre, ça ne sert à rien de comme chercher d'autres options à la place de Maguire. Maguire va être titulaire à coup sûr. C'est même pas
de question. Je pense qu'en effet, malheureusement.
C'est Southgate. Fait que, ouais, mais écoute, même avec Maguire, il peut aller loin. C'est ça.
Mais si Southgate fait jouer ne serait-ce qu'une minute Calvin Phillips ou Jordan Henderson dans cet Euro, c'est de la maladie mentale. Tu ne fais pas ça avec l'effectif que tu as. Je suis désolé, Calvin Phillips ne joue pas. Jordan Henderson est en Arabie Saoudite. Et savez-vous, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais Etifak, le club pour lequel Henderson joue, là, coaché par Gerrard d'ailleurs, a eu un match avec une assistance d'en bas de moins de 1000 personnes. Donc, voilà, c'est fait inusité, mais ça fait aucun sens de mettre sur le terrain ne serait-ce qu'une seule minute Henderson ou Calvin Phillips dans cet Euro, selon moi.
Ouais, c'est vrai. Mais si moi, j'ai aucun problème à ce que ces gars-là jouent si c'était rendu au troisième match de
peut-être à ce moment-là.
4-0, puis tu le fais jouer à la fin, mais il ne devrait jamais dans tes partants. Puis. Pas plus que 25 là, minutes. Là,
mais pour vrai, à part de ça, guys, ça reste quand même que l'Angleterre, pour moi, est dans le top 2 des équipes favorites
de cette France, là. La France était l'Angleterre. Pour moi, la finale, quand tu regardes cet Euro-là, puis la finale qui te fait saliver, c'est France-Angleterre, clairement.
Ouais. Exactement.
Clairement. Mais ouais, sinon, tu as un Conor Gallagher qui prend n'importe quand avant Phillips ou Henderson.
Ouais.
Tu as d'autres options aussi au milieu qui m'échappent, mais. Bref, Southgate, comme le dit Dou, Southgate, c'est à lui de ne pas gâcher ça, parce qu'il y a une chance en or de gagner l'Euro, encore plus qu'il l'avait en 2021, selon moi. Puis en 2021, ils sont passés très proches de l'Angleterre.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on est prêt à passer au prochain groupe? Je pense que oui, groupe D.
Ouais.
Donc, la France, dont on parlait, la France qui, si c'est pas l'équipe la plus talentueuse, mais c'est l'Angleterre, là, ça joue en ces deux-là. Donc, tu as France, tu as Autriche, tu as Pays-Bas. Pays-Bas qui s'est retrouvé dans le chapeau 3. Donc, un groupe assez relevé de ce côté-là aussi. Et tu as les barragistes A. Barragistes A, il y a la Pologne et le Pays de Galles, entre autres, là-dedans. Là. Donc, ça pourrait être un groupe Pologne, Pays-Bas, France, Autriche. Là. Ça serait un très fort groupe là, si on se retrouvait avec ça. Donc, la France va être premier. Hans, veux-tu nous parler de cette France?
Ouais, justement, la France, là, ça va être l'équipe à surveiller avec l'Angleterre, comme on l'a dit plus tôt. C'est une machine offensive, tu sais, avec Mbappé qui peut leader l'attaque, comme on dit, avec un Dembélé à côté. Dans les matchs de qualification, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est de voir le trio du PSG en avant, Colomwani, Dembélé, puis Mbappé. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une parfaite harmonie entre les trois, même si les trois jouent en club. Je préférerais voir, rendu là, même Giroud en avant, parce que je trouve qu'il apporte, en tant qu'attaquant de pointe, il apporte des aspects différents, puis il peut permettre à Dembélé et Mbappé d'utiliser plus leur vitesse de percussion, aller vers le but. Donc, à revoir du côté de Deschamps, là, le trio offensif, sinon Griezmann qui va très, très bien en Liga, qui a gagné le joueur du mois. Là, on va voir qui va composer ce milieu-là, si c'est Rabiot, si même Zaïre Emery pourra être sélectionné, quoi que ce soit. Sinon, en défense, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de joueurs qui peuvent jouer. Donc, je pense que Deschamps a beaucoup d'options. Il peut avoir quasiment deux formations qui peuvent le faire gagner. Ouais. Donc, sans problème, là, si les joueurs sont à 100%, sont reposés, il pourra faire tourner son banc puis même aller jusqu'en finale sans aucun doute. Le Pays-Bas, je les vois pas aller plus que... Ben, je les vois pas descendre en bas de deuxième. Ils devraient confortablement passer aussi. Très belle équipe, Frankie de Jong, Van Dijk, Travis Simmons aussi, qui est vraiment très fort en Bundesliga cette année. Donc, ce groupe-là, il est dessiné de l'avance, je dirais.
C'est un groupe qui, si c'est, mettons, la Pologne là, qui les rejoint, c'est un groupe qui peut être un semblant de groupe de la mort aussi, là, presque. Ouais, donc, c'est sûr que la France est hautement favorite. Mais les Pays-Bas ont eu des qualifications difficiles. Là, c'est ça qui me fait douter un peu d'eux, mais ça, c'est une très belle équipe. Puis, d'où, je vais enchaîner là-dessus avec toi. Là, Hans a parlé du placement offensif là, du côté de la France. Moi, je suis d'accord avec lui, je ne mets pas le trio du PSG en avant. Là. Je trouve qu'un Marcus Thuram ou un Kingsley Coman sont des options bien plus intéressantes qu'un Dembélé sur l'aile, par exemple. Puis Olivier Giroud, si tu fonctionnes en méritocratie, mérite plus qu'un Colomwani, je pense aussi. Là. Mm-hmm. Donc, toi, tu irais avec quoi, niveau offensif, Dou?
Ben écoute, moi, je pense que... Comparé à toi, Ali, moi, j'aime bien Ousmane Dembélé. Je trouve que Ousmane Dembélé, quand tu le vois à Paris Saint-Germain, je vous dis, à part la finition, là, c'est lui qui crée le plus. On va en parler tout à l'heure, là, à la Ligue des Champions. Là. Kylian Mbappé me fait peur pas mal. Kylian Mbappé, il a des fâcheuses tendances à ne rien faire pendant le match. Puis après ça, oups, deux, trois éclats, puis voilà. Et puis un penalty, puis voilà. Il revient à la rencontre. Mais pour répondre à ta question, écoute, la magie de la France, c'est que tu as tellement d'options que comme tu peux essayer plein de choses, puis au final, genre, ça marche. Je pense que si Giroud va bien, pourquoi pas essayer avec Giroud à la pointe, ça a bien fonctionné.
Avec Mbappé et avec Dembélé. Mbappé
et ouais, Dembélé, pourquoi pas pour l'instant. En tout cas, pour le premier match, puis ça va moins bien, peut-être mettre un Coman, peut-être
un Thuram.
Un Thuram, ouais, mais Thuram, c'est un attaquant de pointe, non?
Ouais, mais je crois qu'il joue à l'aile avec. Ah non, il joue peut-être avec le tarot en avant, t'as raison.
Ouais, le tarot en avant, ouais, du côté de.
Je pense qu'il se débrouillerait à droite quand même.
Ouais, c'est ça, mais écoute, reste que. Il y a tellement d'options en équipe de France, mais pour moi, en ce moment, je verrais un Mbappé, Dembélé, Giroud, qu'est-ce qui est quand même pas mal similaire à qu'est-ce que la France avait dans la Coupe du Monde 2022, là, donc. Moi, je pense que j'irai avec ça. Mais écoute, la France, c'est incroyable. Le joyau de talent qu'il y a là-bas, là, c'est de la folie. Là. Écoutez, si on regarde un milieu de terrain, là, tu parlais de Rabiot, là, mais t'as les gars du Real Madrid, Tchouaméni et Camavinga qui vont être au milieu de terrain également aussi. Ouais. Puis également aussi, t'as Antoine Griezmann qui est comme un genre de faux numéro, qui est un faux neuf, qui est un peu comme un milieu. C'est assez spécial, Antoine Griezmann, en fait. Là. Antoine Griezmann, c'est pas un attaquant Mais c'est pas un milieu offensif, c'est genre un entre-deux. C'est ça qui est assez magique avec Antoine Griezmann. Donc, déjà, tu te trouves avec ça. Puis, moi, j'ai tellement hâte de voir ce que Didier Deschamps va faire avec cette formation-là. Mais, par contre, l'affaire, c'est que des fois, on connaît comment il est Didier Deschamps. C'est pas l'entraîneur le plus créatif, forcément. Donc, ça se peut qu'on soit un peu déçu par le niveau de jeu de l'équipe de France. Mais l'équipe de France, d'habitude, trouve toujours un moyen de s'en sortir pareil.
Ouais. Puis défense centrale, Saliba ou Upamecano? Ou est-ce qu'on a un Konaté? Avec qui est-ce qu'on irait, Hans?
Ben, pour le vrai, Saliba, Konaté, ça peut être solide ou Upamecano. Mais ça va vraiment dépendre de la fin de saison de ces gars-là. C'est vraiment qui va être le plus en forme, qui va avoir eu le plus de bonnes performances. On veut aller avec les gars qui sont le plus prêts à jouer. Donc, ça reste à voir. Si ça devait être d'aujourd'hui, je mettrais Saliba puis Upamecano, je dirais.
Ouais, mais en passant, gars, il ne faut pas oublier, il y a les frères Hernandez aussi. Hein.
Ouais, Théo va être latéral.
Théo latéral, mais Lucas, je pense pas qu'il passe.
Lucas, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Moi, on pourrait voir Lucas en défense centrale aussi. Là.
Ouais, c'est sûr.
C'est possible. Puis il y a toujours les blessés, hein. C'est en juin, l'Euro. Mm-hmm.
Exactement.
Ouais, oui. Et même Pavard aussi, on l'a vu dans des matchs amicaux, des matchs nationaux, il pouvait.
Ouais.
Il jouait. Ce que disait Charles, essayer en défense centrale, puis c'est pas si pire que ça. Donc, il y a quand même pas mal d'options. Mais Hans a parfaitement dit qu'est-ce que moi aussi je pensais. Faut attendre la fin de saison pour vraiment savoir qui va être la charnière centrale de l'équipe de France.
Tout à fait. Puis l'attaque aussi, là, il va y avoir des joueurs plus en feu que d'autres. Alors, d'ici la fin de saison, il va y avoir des blessés probablement et malheureusement, mais c'est des choses qui vont arriver. Dernière question sur la France. Est-ce que N'Golo Kanté pourrait être sélectionné, lui qui va quand même à l'ITIA, je pense.
Non, ça a été confirmé. N'Golo Kanté, il retournera pas en équipe de France.
Ça a été confirmé
pas plus tard qu'il y a moins de deux semaines de ça, là, je pense.
La semaine passée, là.
C'est Didier ou c'est Kanté qui a dit ça?
Je pense que c'est Didier même qui l'a dit.
Mais je n'avais pas vu cette information. Merci.
Puis écoute, Pogba aussi, il reviendra pas. Donc,
Ça, je m'y attendais.
Mais Pogba, peut-être que sa carrière est finie aussi. Ça, c'est autre chose.
Ouais, c'est ça. C'est une autre histoire.
Au moins, la France a des bons jeunes milieux de terrain. Donc, la relève est assurée.
Puis en passant aussi, guys, il y a un morceau assez important qu'on a oublié. Anne, ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Mais Christophe Nkoukou, là.
Ah.
Ça, c'est un autre cas intéressant.
C'est vrai.
Quand est-ce qu'il revient, lui, Hans, à Chelsea?
Écoute, il était discutable pour jouer aujourd'hui contre Brighton. Je pense que c'est un peu trop tôt, mais il est de retour à l'entraînement complet avec ses coéquipiers qui frappent, il court. Donc, d'ici deux semaines, il devrait retourner sur le terrain, jouer pour Chelsea. Donc, c'est vrai. Si la saison se finit bien pour lui, il devrait être convoqué. Est-ce qu'il va être partant, ça dépend de la fin de saison, mais c'est lui aussi un attaquant qui va très très vite, qui a une qualité de finition presque similaire à celle des Giroud, c'est des renards de surface, là, une touche de balle, puis c'est dans le fond du filet. Donc c'est intéressant de voir, ça pourrait aller très très vite du côté de l'offensive française avec Nkoukou dans ses rangs, mais on va voir comment il va, puis si sa blessure lui permet aussi. Là.
Il va faire énormément de bien à Chelsea, Nkoukou. Ouais. Et moi, s'il est en forme, rendu en juin, je le prends avant Giroud, là, honnêtement. Là.
Ouais. Mais, avant Thuram, c'est sûr.
Comment?
Je le prendrai avant Thuram, moi.
Avant Thuram, OK. Fait que tu le mettrais sur l'aile?
Je pourrais le mettre sur l'aile, comme je pourrais le mettre
en... Ça pourrait être intéressant sur l'aile, c'est vrai.
Admettons, Giroud, Thuram et Nkoukou, je prendrais... Giroud, Nkoukou, puis Thuram, je ne le sélectionnerai pas. Là, si je devais choisir entre les trois.
OK, intéressant. Thuram va quand même bien, cependant, à l'Inter. Là, mais je comprends. Il n'y a pas de mauvaise option non plus là, quand tu as une équipe comme ça. Là, et c'est tous des bons choix. Bon, on s'est assez attardé sur le groupe D. Passons au groupe E maintenant. Probablement le groupe le plus plate. Là, ben, en fait, le groupe E et F, là, les moins... divertissant, je pense, là, selon moi, sans leur manquer de respect. Mais Belgique, Slovaquie, Roumanie et Barrages B. Ce qui est intéressant avec Barrages B, là, c'est qu'on a l'Israël et l'Ukraine présentement qui sont dans ces barrages-là. Donc, ça pourrait être deux pays qui sont en guerre là, présentement aussi. Là, donc, peut-être ça pourrait être intéressant pour leur, les partisans d'avoir autre chose à faire là-bas qu'en regardant leur nation à l'euro. Là. Bref, voilà. Mais c'est pas fait pour aucune de ces deux-là. Il faut y a encore une chance sur quatre de se qualifier. Mais sinon, pour le groupe en tant que tel, les gars, la Belgique, c'est une équipe qui a vraiment choqué lors de la dernière Coupe du Monde, mais qui va très bien en qualification. Romelu Lukaku va très bien avec la Belgique. De Bruyne est blessé, devrait revenir d'ici l'Euro. T'as un Trossard qui va bien. Bref, t'as un Courtois.
T'as Jérémy Doku qui est absolument exceptionnel aussi.
Doku, t'as bien raison, Doku. Donc, on devrait se qualifier facile le premier rang de ce groupe-là pour la Belgique, n'est-ce pas, Edou?
Ouais, ben écoute, c'est quand même une équipe assez intéressante, ça, de la Belgique. Là. On le sait, c'est comme une équipe qui vient de passer, ben, qui vient un peu de passer son apogée, là, entre 2014 et 2022, là, avec la génération Hazard, De Bruyne, Lukaku. Mais si tu regardes l'évolution, ou en fait l'ascension fulgurante de Jérémy Doku, moi j'ai hâte de voir ça va être quoi son rôle, lui, avec l'équipe de la Belgique. Parce que pour moi, en ce moment, autre que De Bruyne, ça devrait être lui le général de cette équipe-là. C'est pas Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, je suis désolé, mais après la Coupe du Monde qu'il a eue au Qatar, pour moi, il devrait pas être un cadre de cette équipe-là. Je sais, c'est le meilleur buteur de tous les temps de la Belgique, mais reste que. Quand tu ne te présentes pas dans les gros matchs, quand tu fais de nombreux gâchis, pour moi, je ne sais pas à quel point genre, Lukaku devrait être un morceau important de cette équipe-là. Moi, je pense qu'au point que la Belgique est rendue, faudrait penser à l'avenir. Puis, Doku pourrait être avec De Bruyne, en tout cas, être les leaders de cette équipe-là. Puis, j'ai hâte de voir si. Parce que je ne sais pas si ça a été confirmé, mais Thibaut Courtois devrait être bon pour revenir à l'Euro, non?
Ouais.
Que ça va être intéressant de voir son retour de blessure.
Je pense, je pense qu'avec ce qui s'était passé à la Coupe du Monde, Courtois avait dit qu'il n'était pas sûr là, d'avoir encore envie là, de l'équipe nationale. Là, mais d'après moi, il va revenir. Là.
Ouais, moi, je pense aussi. Mais bref, ça va être intéressant de voir ça. Mais au moins, c'est question pour la Belgique, c'est qu'ils vont être capables de se qualifier au moins pour les huitièmes de finale, mais je pense pas, je mets pas cette équipe-là parmi mes équipes favorites pour remporter le tournoi. Mais...
Ouais, moi non plus. Tu sais, dans tous ceux qu'on voit, la France et l'Angleterre, bien entendu. Puis ensuite, le Portugal, là, qu'on va parler. Je pense que toute une équipe également, le Portugal.
Ouais.
Mais pour ce qui est de Slovaquie, ouais, vas-y, d'où?
Non, c'est parce que j'ai hâte de parler du Portugal, mais vas-y.
Ouais, parfait. Mais Slovaquie, Roumanie, écoute, c'est deux équipes que je pense pas qu'ils vont aller loin, peu importe qui se qualifie. Là, puis il y a les barragistes aussi, on n'a pas oublié. Mais peut-être la Slovaquie, là, qu'on a un Milan Skriniar ou un Lobotka. Là, mais je vois. Est-ce que tu connais un joueur de la Roumanie, Hans?
Qui a du succès actuellement? Non. Je vois les noms ici, mais. C'est pas des joueurs qui vont faire trembler les défenses adverses. Puis du côté de la Belgique, on a oublié Loïs Openda, qui est
bon.
Oui,
qui ressemble un peu à Jérémy Doku. Il va vite, il dribble bien. Donc, c'est sûr qu'il y a les deux joueurs à gauche. Donc, peut-être qu'il y en aura un qui va jouer à droite si les deux jouent en même temps. Mais la Belgique, qui devra mieux faire que dans la Coupe du Monde. Je pense qu'avec des joueurs comme Doku qui sont encore meilleurs qu'ils étaient avant, ça peut aider Lukaku aussi à produire offensivement parce qu'il était un peu laissé à lui-même, je dirais. Là, ça n'a pas été les meilleurs attaquants dans les meilleures formes qui ont été à côté de lui. Donc, je pense qu'avec des gars qui vont rapide et qui lui mettent des ballons dans la surface, je pense que ça peut l'aider à retrouver les filets avec la Belgique dans des grosses compétitions là, parce que la Coupe du Monde, c'était pas fameux. Il devrait une qui devrait revenir en santé. Donc, c'est pas un groupe qui va être tant intéressant à regarder. La Belgique devrait ressortir premier, là. Ouais. Puis la Slovaquie aussi deuxième.
Slovaquie probablement deuxième, mais écoute, pour le reste, on ne sait pas. Puis ouais, tu as nommé Doku, mais Trossard aussi, là, qui va très bien du côté de Arsenal. Puis tu as comparé Openda à... voyons, à qui tu l'as comparé, Openda?
À Doku.
Mais moi, il me fait beaucoup penser à Nkunku, qui a passé par Leipzig également. Les deux des attaquants rapides. Donc, ouais. À suivre. Et d'où tu voulais parler du Portugal. Donc, c'est le dernier groupe, le groupe F. Turquie, Portugal, République tchèque et barragiste C. Vas-y, d'où lance-toi sur le Portugal.
Écoute, il y a plusieurs points intéressants du côté du Portugal. La première, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Cristiano Ronaldo. Ça va être quoi l'utilisation de CR7? On le sait, Cristiano Ronaldo est en fin de carrière. Bon, ça va super bien pour lui à Al Nassr puis dans la Saudi League, mais reste quand même que normalement, CR7 ne devrait pas être titulaire dans cette équipe-là, mais reste que quand tu as un des meilleurs joueurs de l'histoire du football dans ta sélection, puis que c'est le meilleur joueur de ta sélection aussi, moi, j'ai hâte de voir c'est quoi l'utilisation de CR7, parce qu'en ce moment, honnêtement, là, j'ai rarement vu une équipe du Portugal autant talentueuse que celle qu'on voit en ce moment. Là. Si on regarde juste sans Cristiano Ronaldo, ok, t'as juste à l'attaque, tu as Gonzalo Ramos, tu as Joao Félix, tu as Rafael Leao, que moi j'ai hâte de voir comment ils vont l'utiliser, Leao, parce que c'est, pour moi, ça devrait être lui le leader de cette attaque-là. Tu as Bernardo Silva, tu as Bruno Fernandes. Également, si tu regardes la défense aussi, t'as Ruben Diaz. J'ai hâte de voir, est-ce que Pepe va être titulaire aussi en équipe nationale, mais malgré son âge, il est encore très performant du côté de Porto, Pepe, donc j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. T'as Cancelo qui est excellent avec FC Barcelone, t'as Guerreiro qui va être à gauche. Écoute, t'as une équipe remplie de talent, mais encore une fois, j'ai peur que Cersa soit hyper utilisé à son âge, parce que ben, évidemment, ben, il y a un statut, puis ça va être son dernier gros tournoi en carrière. Donc là, j'ai hâte de voir ça. Puis j'ai hâte de voir aussi comment ça va être quoi l'adaptation avec Roberto Martinez. On le savait, avec Fernando Santos, c'était rendu extrêmement difficile. Ils avaient besoin d'un vent de fraîcheur. Puis en ce moment, ben, on l'a vu lors des qualifications, ça a super bien été pour le Portugal, malgré que oui, ça s'est retrouvé dans un chapeau qui était extrêmement faible. T'sais. Mais à part de ça.
Non, il était dans le chapeau 1, dans un groupe.
Non, non, mais pas le chapeau 1, je veux dire dans le groupe de qualification. C'est ça que je veux dire. Le groupe de qualification qui était peut-être celui le plus faible des grosses nations. Mais malgré ça, moi, je trouve que cette équipe-là du Portugal est extrêmement bonne sur le papier. Pour moi, elle est dans mon top 3 des équipes favorites pour ce tournoi-là. Là. J'ai hâte. Honnêtement, pour moi, ça va être l'équipe à surveiller. Là. Autre que les grosses têtes d'affiche comme. L'Angleterre, l'équipe de France, l'Espagne.
Mais moi, ils sont après ces deux-là. Moi, le Portugal et après Angleterre et France pour moi. Là, dans ma hiérarchie.
Ouais, c'est ça. Pour moi, troisième, le Portugal. Mais comme je t'ai dit, il y a deux choses à surveiller. Ça va être l'utilisation de CR7 et voir Roberto Martinez comment il va se débrouiller avec cette équipe-là.
Ouais.
Ouais, puis aussi, je ne sais pas si tu as nommé Diogo Jota, d'où?
Non, tu l'as oublié, ouais.
Ouais, mais.
Ouais, Diogo Jota qui est blessé présentement, mais qui va être de retour. Nuno Mendes, ouais. As-tu nommé Nuno Mendes?
Non, c'est vrai, Nuno Mendes qui est blessé
en ce moment au PSG. Ouais,
il devrait être de retour.
Ouais.
Ça va être intéressant.
Ouais. Léao, tu as sûrement nommé.
Ouais, il y a pas mal de joueurs que j'ai nommés.
Ça, c'est tous des blessés présentement pour le Portugal, mais qui devraient être de retour pour l'Euro, puis ça ajoute tellement de talent à cette équipe portugaise-là. Hans, est-ce que tu les mets troisième derrière l'Angleterre et la France, ou en termes de talent également?
En termes de talent, oui. Tu sais, je suis pas loin derrière peut-être les Pays-Bas. Sur papier, là, on parle sur papier. Là. Mais oui, je m'attendrais à ce que le Portugal, tu sais, demi-finale, on soit là. Après, il y a toujours des surprises dans les tournois de même. Il y a toujours une équipe Cendrillon qui va sortir de nulle part. Mais je ne m'attends pas à ce qu'ils sortent tôt en quart de finale ou quoi que ce soit. Je les vois vraiment passer vers les demi-finales. Et comme à chaque poste, il y a au moins deux joueurs qui peuvent fitter là, puis des joueurs de classe mondiale quasiment. Donc, ça serait le temps. Ça serait la dernière chance de Cristiano pour gagner l'Euro pour une deuxième fois. Puis ça, avec Roberto Martinez, je pense que ça peut donner un vent de fraîcheur à ce Portugal-là qui a beaucoup d'armes offensives, même au milieu de terrain, même en arrière. Donc, une équipe assez équilibrée qui devrait faire un bon bout de chemin. Là. Mais c'est ça. Est-ce que Cristiano va commencer? Qui va le remplacer sinon? Est-ce qu'il va mettre sa fierté de côté, commencer sur le banc? C'est toutes des choses qui vont être à voir. Puis c'est quand même un gros dossier pour Roberto Martinez à régler là, avant la Coupe du Monde, l'Euro.
En effet, moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Je pense qu'il faut bien dealer avec, si vous me permettez l'anglicisme, avec le temps de jeu de Ronaldo. Je pense que Ramos doit en avoir aussi. Mais je pense quand même que ton option numéro 1 comme attaquant de pointe, ça doit être Ronaldo en ce moment. Parce que lui, il est en... Ben, en ce moment, là, on n'est pas en juin, là, mais en ce moment, Ronaldo est celui des deux qui est le plus en feu. Ramos n'a peu de temps de jeu au PSG. Donc, pour moi, Ronaldo va être ou doit être pour l'instant l'attaquant de pointe numéro 1 du Portugal. Mais il faut dealer avec son temps de jeu également. Ouais. Ensuite, Turquie puis République tchèque, ça peut aller d'un bord et de l'autre, j'ai l'impression. Ouais. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est la Géorgie là, être passée dans ce groupe-là pour voir Gvichak Varaskelia à l'Euro. Ouais. J'adorerais ça parce que la Géorgie qui est dans les matchs de barrage présentement qui seront en mars.
Mais Kvaratskhelia, il n'y a pas tant... En tout cas, ça va pas super bien du côté de Naples cette saison, je trouve. Là. Je trouve qu'il est moins percutant que...
Il est moins percutant, mais Osimhen ne joue pas non plus. C'est un changement d'entraîneur.
Ouais.
Ouais. En tout cas, c'est juste ça que je voulais mentionner.
Mais oui, tu as raison, il est moins percutant que l'an dernier, ça c'est sûr. Alors, ça fait le tour pour ce qui est de l'Euro, messieurs. On va se diriger vers la Champions
League. Je vais dire une dernière chose, OK, c'est rapidement. Cette année, là, on se retrouve dans la prochaine année 2024. Ça va être une année absolument exceptionnelle au niveau des tournois internationaux. Au mois de janvier, tu vas avoir la CAN et également la Coupe d'Asie qui va jouer en même temps. Puis, à l'été, tu vas avoir... Tu vas avoir l'Euro et la Coupe américaine qui vont jouer en même temps. Ça va être de la folie en passant. Fait que c'est une super de belle année pour les tournois internationaux. Moi, j'ai hâte à ça. C'est ça que je voulais juste mentionner.
Puis la CAN va se dérouler en même temps que les championnats nationaux.
Ouais, ça a toujours été de même.
La Premier League ne va pas arrêter, là, malheureusement. Mais
non. Malheureusement, écoute, voilà. Ça a l'air... En tout cas, je ne veux pas m'embarquer là-dessus. Là.
Ouais, ça sera un sujet pour une autre fois. Mais... Champions League, on va pas revenir sur tous les matchs. Mais il y a Galatasaray et Man United qui a fini 3-3, notamment. Et là, ça fait en sorte que Man United se retrouve dernier du groupe avec 4 points. Pour se qualifier, ils doivent battre le Bayern et doivent espérer que Galatasaray ne gagne pas contre Copenhague. Ça va être très, très, très difficile pour Man United. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va avoir un Galatasaray Bayern lors de cette. Qui vont être qualifiés, en fait?
Moi, ça ne m'étonnerait pas. Si Ziyech continue les performances qu'il a eues, je les verrais bien passer. Ce serait bon pour eux. Surtout Manu qui doit gagner son prochain match. Puis, tu sais, c'est pas pour revenir sur le dernier match, mais Ziyech est bon. Il a marqué sur 2 coups francs, mais. À un moment donné, Onana doit être tenu responsable de certaines bêtises. Je veux bien que Ten Hag en conférence qu'ils disent on est une équipe, on prend tous le blanc, mais des fois, Onana, c'est quand même pas n'importe quel gardien. Il y a des buts qui ne doivent pas passer. Puis Manu aussi, tu gagnes 3-1, tu dois être capable de garder ton avance. Donc, juste pour ça, là, tu peux pas espérer aller loin dans une compétition comme la Champions League si tu n'es pas capable de garder une avance de 2 buts contre Galatasaray. Donc, Galatasaray qui passerait avec le Bayern, ça ne m'étonnerait vraiment pas.
D'où tu l'as ajouté là-dessus?
Écoute, la seule affaire que je peux vous dire, c'est ciao Manchester United. Là. Manchester United vont finir dernier de ce groupe-là à coup sûr. Je vous le garantis. C'est même pas une question. Hey, déjà, ils doivent battre le Bayern de Munich, qui est une des équipes favorites. Bon, la bonne nouvelle pour United, c'est qu'ils vont jouer à Old Trafford. Mais même à Old Trafford, ça ne change pas grand-chose au final. Ils ont autant de difficultés à domicile qu'à l'extérieur. Donc, est-ce que ça change tant de choses que ça? Puis, moi, en plus, je me suis dit, bon, ce week-end, ils affrontaient Newcastle. J'ai hâte de voir comment United va se débrouiller contre une équipe comme celle de Newcastle, qui est quand même une équipe qui a beaucoup de blessures, mais reste quand même une des équipes top 6 de PL, puis ça a été catastrophique. Là. Oui, ils ont juste perdu 1-0, mais ils n'étaient pas dans le coup du tout, United. Donc, moi, je vous dis tout de suite, je vois soit Galatasaray ou Copenhague finir en avant de United. Puis ça me fait chier parce que je m'en doutais que United allait avoir de la difficulté en Ligue des Champions. Je m'en doutais. Puis en tant que fan de Liverpool, t'es comme vraiment, on n'a vraiment pas été capable de se qualifier pour la Ligue des Champions. Puis c'est United qui sont là à notre place. T'es... En tout cas. C'est
fâchant, effectivement. Ouais. Effectivement, Dou. Mais voilà, United. Puis Hans a nommé un très bon point. André Onana, autant il a eu des matchs cette année où il a fait la différence pour United positivement, il a eu beaucoup de matchs qui l'ont fait négativement, la différence aussi. Là, puis ce match contre Galatasaray est un gros exemple de ça. Ouais. Bon, on ne va pas passer sur tous les matchs, mais parce que je veux surtout revenir sur le groupe de la mort, là, donc Milan, Dortmund, PSG, Newcastle, mais on a Atletico qui a déroulé encore, Barça qui a gagné, Manchester City qui perdait 2-0 contre Leipzig, qui est revenu, a fait 3-2, ça c'était tout un match. Ouais. Et quand Manchester City perd par deux buts ou perd tout court, et que on est en, c'est seulement la première demi qui a été jouée, il faut s'attendre à les voir remonter, c'est ce qu'ils ont fait contre Leipzig. Real Madrid, qui malgré les blessures, déroule contre Naples également. Sinon, on a Arsenal qui a lavé complètement Lens 6-0. Grosse performance de Arsenal. Lens qui est éliminé là, avait surpris là, Arsenal plutôt dans la compétition, mais pas cette fois-ci. Et puis Benfica-Inter, gros match également là, de ce côté-là. L'Inter qui perdait 3-0 est revenu à 3-3. Mais si on revient à PSG-Newcastle, j'ai vu ton tweet là-dessus, Hans, plutôt cette semaine, où est-ce que tu parlais de cette fameuse main. Puis moi, puis nous, on regardait le match ensemble. Ouais. Puis, ben, honnêtement, pour moi, si on était constant avec les règles, ben, si on était constant, non seulement, mais que aussi on se fiait vraiment au règlement, je pense que si le ballon touche une partie de dans ce cas-là, c'était la poitrine, je pense, et ensuite dévie sur ton bras, ce n'est pas censé être une main. On a appelé une main. Ouais. Alors, inconstance de ce côté-là, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ça a été décisif parce que le PSG a égalé là-dessus. Là.
Exactement. Moi, pour Newcastle, qui a vraiment travaillé fort pour garder le score à 1-0 jusqu'à la toute fin, surtout que on donne un pénalty à la fin, mais la même faute a été produite quelques minutes avant, là, puis l'arbitre a quand même refusé d'accorder un pénalty. Puis, tout d'un coup, à la fin, on accorde le pénalty pour la même raison. Je trouve que il y a un manque de conscience dans l'arbitrage depuis l'arrivée de la VAR. Là, ça, c'est un tout autre sujet, là, la VAR, comment on l'utilise, le fait que ça rajoute beaucoup de temps au match, les 10 minutes, on voit des 10 minutes de temps ajouté. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais pour Newcastle, je trouve qu'ils ont quand même bien réagi. Ils ont pris le match nul, puis ils vont de l'avant. Il n'y a pas eu trop de sorties médiatiques à propos de ça. Je pense qu'ils savent qu'il leur reste un match à jouer, ils vont tout donner. C'est malheureux pour eux parce qu'ils mériteraient de gagner le match 1-0. Selon les règles, il n'y aurait pas eu de pénalty. Après, le PSG, ça n'a pas été fameux, mais quand Barcola est rentré, il y a eu quand même beaucoup de chance. Le PSG devait marquer, ça c'est sûr. Mbappé aussi qui a eu, je me rappelle, le tir dans la boîte à deux reprises. Donc oui, on a créé offensivement pour le PSG, mais c'est inquiétant de voir qu'on n'arrive pas à finir. Surtout avec le prix qu'on a mis pour acheter des attaquants qui sont supposés produire offensivement puis qu'il ne se passe rien. Le PSG qui se retrouve quand même encore en bonne position là, à 7 points. Dortmund, premier à 10 points. Mais tout est sujet à changement jusqu'à la dernière journée. Donc, il faudra vraiment que le PSG gagne absolument. Même un match nul, ce ne sera pas suffisant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les autres matchs. Est-ce que j'aurais prédit ça à ce temps-ci là, que Dortmund soit premier, PSG deuxième? Non.
Puis Dortmund est déjà qualifié assurément.
C'est ça. Fait que ça va jouer entre les trois équipes, là, PSG, Newcastle, Milan. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais PSG, pour moi, là, c'est inquiétant de voir qu'on n'arrive pas à battre des équipes comme ça. C'est des bonnes équipes, mais si tu veux te rendre plus loin, tu vas devoir affronter le Real, le Bayern, City. C'est de la misère contre Milan, Dortmund puis Newcastle. Ça va être compliqué pour espérer gagner la Champions League.
Vraiment. Puis s'il n'y avait pas eu d'erreur arbitrale, là, Paris serait troisième présentement puis il serait en position encore plus dangereuse. Puis juste revenir, avant de te laisser passer la parole à Dou, là, juste revenir sur la faute arbitrale que tu parlais, Hans. Tu parlais de la VAR, mais peu importe ce que la VAR décide, c'est juste d'établir si, premièrement, c'est un penalty ou pas. Ce qui varie tout le temps, là, selon le règlement, c'en est pas un, mais des fois on l'appelle, des fois on l'appelle pas. Faut juste que tu t'entendes, que l'ensemble des arbitres s'entendent sur c'est une main ou c'est un penalty ou c'en est pas un, ce genre de situation-là. Parce que là, on appelle des trucs différents, donc ça. C'est juste complètement incohérent et frustrant pour l'ensemble de la planète foot. Donc voilà.
Ouais. Mais juste oui, pour dire, surtout que l'arbitre qui a pris cette décision-là a été suspendu pour arbitrer le match d'après. Je ne sais pas quel match il arbitrait le lendemain, mais il a été suspendu parce que après une révision, là, l'UEFA, je pense, ou une autre instance sportive a déclaré que c'était une mauvaise décision qu'il a prise. Donc, pour qu'un arbitre soit suspendu, c'est vraiment que la décision était mauvaise.
Exactement. Puis peu importe ce qu'on fait après le match, ça ne changera jamais les résultats en tant que tel. Donc, ça rend ça encore plus frustrant. Bref. D'où, comment tu vois ça, là, l'avenir de ce groupe-là? Il reste une seule journée. Est-ce que le PSG va s'en sortir?
Ça reste d'être extrêmement difficile pour le Paris Saint-Germain, surtout que le PSG doit se déplacer du côté de Dortmund. On connaît les difficultés que le PSG a eues depuis le début de la saison à l'extérieur. C'est fait manger à St. James Park. Également perdu aussi à San Siro contre une équipe de Milan qui est une équipe qui a eu des difficultés cette saison en Ligue des Champions. Donc, c'est pas la même équipe que celle de l'année dernière à Milan. Honnêtement, je vois pas le PSG s'en sortir. Parce que si le PSG n'est pas capable de gagner à Dortmund, là, après ça reste du miracle. Ça reste de « ouais, si Newcastle et Milan font match nul,
ça prend nul.
Le PSG… Ouais. » Ça prend un nul à coup sûr. Donc, est-ce que ça va vraiment arriver le match nul? T'sais? Moi, ce serait exceptionnel pour le Paris Saint-Germain, mais je serais vraiment surpris. Là. Donc, moi, je pense pas qu'ils vont sortir. Moi, je pense qu'ils vont finir troisième du groupe. Et je pense que Milan va trouver un moyen de s'en sortir. Hein. Je pense. Parce que l'affaire avec Newcastle, c'est qu'ils ont beaucoup de blessures. Donc, j'ai peur qu'ils soient trop fatigués pour la dernière rencontre. Surtout que contre le PSG, ils se sont retrouvés à. Ils se sont retrouvés à jouer avec seulement 11 joueurs, puis 11 joueurs ont joué 99 minutes. Donc ça, c'était assez exceptionnel comme situation. Mais écoute, moi je vois le PSG terminer 3e, puis la Simila va trouver un moyen de terminer 2e. Et même peut-être Newcastle pourrait terminer 2e aussi, hein, qui sait. Mais ça, la situation est extrêmement complexe du côté de Paris.
Moi, tu vois, je crois pas tant à l'AC Milan, malheureusement, parce que Léo était blessé pour le dernier match. Je sais pas s'il va être là dans 2 semaines ou c'est la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce qu'on joue. Dans 2 semaines, je pense. Mais je crois pas beaucoup en l'AC Milan, là, parce que tu l'as dit, c'est pas la même équipe que l'an passé. Les mercato qu'on a fait dans l'entre-saison, là, des Pulisic, Reinders, je sais pas comment le prononcer, là, mais ça n'a pas été fructueux, vraiment pas, là. Pulisic a un bon début de saison, mais n'arrive pas à conclure les occasions. Il a marqué hier, là, mais c'est une exception. Rangers, là, qui fait absolument rien ou presque là, en milieu offensif du côté de l'AC Milan. Puis sans Rafael Leao, on n'arrive pas à produire assez de chances à l'attaque. Donc je vois mal l'AC Milan gagner contre Newcastle. Ben, il pourrait gagner. Mais je vois mal les. C'est vraiment pas l'AC Milan de l'an dernier ou il y a deux ans quand ils ont fait le titre. Donc même s'ils se qualifient, ça serait pas une grosse adversité pour les équipes ensuite là, en phase éliminatoire. Mm-hmm. Puis le PSG, ça serait vraiment très catastrophique si on se qualifiait pas. Ça serait la débandade à Paris. Là.
Ouais, mais même là, je vois pas le PSG se rendre loin en Ligue des Champions cette saison. Il y a trop d'inconstances du côté du Paris Saint-Germain. Il y a un problème de cohésion. Puis si tu regardes le milieu de terrain aussi, Luis Enrique, des fois, s'il ne prend pas les meilleures décisions, tu te retrouves avec un bloc à 5 du côté de Newcastle. Puis là, du côté du PSG, t'avais Zaire Emery qui était blessé. Mais après ça, tu décides de faire un milieu avec Ugarte et Fabián Ruiz. C'était pas la meilleure décision. Puis Ugarte aussi, on le voit par moments. Oui, ça va super bien en Ligue 1, mais il manque d'expérience. Donc, il y a encore un autre problème au milieu du terrain du côté de Paris Saint-Germain. Puis, des fois, on dirait qu'ils ont tendance à craquer là, dans les gros moments. Là. Donc, je vois pas le PSG se rendre loin avec des champions, même s'ils passent la phase de groupe. Mm-hmm.
Puis ensuite, tu as les commentaires de Mbappé après le match qui dit « Ah, ils ont rien, Newcastle, ils ont rien. » Mais je suis comme… Kylian, vous avez pris un point sur 6 contre eux. Là. Donc, Ange l'a dit, ils ont défendu. Ça peut être un peu chiant, si vous me permettez l'expression, pour l'adversaire quand on défend en bloc comme ça. Mais ils n'ont pas rien, Newcastle. Là. Donc, Mbappé, je n'étais pas d'accord avec ses propos, personnellement. Mais aussi, Dembélé, Edu, tu parlais qu'il créait beaucoup, Dembélé. C'est vrai qu'il crée, puis ça peut être intéressant parfois, mais ça donne absolument rien. On l'a vu là, dans le match contre le Newcastle. Ça n'a rien donné les occasions qu'il a tenté de créer. J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu trop flashy des fois, mais bref, personnellement, je trouve que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne peut-être plus en équipe de France. Là-dessus, tu as peut-être raison. Mm. Mais avec le PSG, on le voit, il tend des choses Dembélé, mais manque d'exécution peut-être. Ça n'est pas concluant. Ouais. Bref, ça, c'est ça pour la Champions League. La dernière journée qui suivra là, en décembre, on reste à l'affût de ça. Et on finit l'épisode avec Équipe Canada, Canada Soccer, qui n'a pas été chercher sa qualification à la Copa América avec une défaite. C'est une défaite en match aller-retour contre la Jamaïque après avoir gagné 2-1 en Jamaïque, ce qui était exceptionnel parce qu'on ne l'avait pas fait depuis je ne sais pas combien d'années. On a perdu à Toronto contre la Jamaïque, ce qui était aussi exceptionnel pour la Jamaïque. Malgré les buts de Davies et de Ismaël Koné, on l'a échappé ce match-là et on est donc on devra attendre de jouer contre Trinidad et Tobago pour espérer obtenir notre billet pour la Copa América. Hans, est-ce que tu as vu ce match-là et qu'est-ce que tu en penses? Ça fait déjà 2 semaines à peu près de ce match-là, mais vas-y.
Ouais, je l'ai vu. Déjà là, on sait déjà que Mauro Biello ne peut pas diriger une équipe nationale. Mm-hmm. C'est déjà ça, tactiquement, c'est pas un gars qui a les ressources ou je dirais qu'il y a eu assez de vécu pour diriger une équipe comme le Canada. Après, il y a du positif à retenir là-dedans, c'est vraiment qu'Ismaël Koné gravit les échelons encore. Et il a marqué avec le Canada, il a marqué avec son équipe il y a 2 matchs justement.
McFerd, ouais, gros but. Ouais.
Tour de loin, quand même bien placé. Je trouve que c'est des matchs que si on joue 10 fois, il ne faudrait pas les perdre 10 fois. Tu sais. Canada devrait avoir le dessus sur la Jamaïque. Ça a été vraiment... c'est sûr que l'entraîneur a une part de responsabilité, mais il y a aussi les joueurs. Ça n'a pas été fameux joueur dans la deuxième demi du premier match, si je ne me trompe pas. En tout cas, je trouve que ce n'est pas un Canada qu'on a vu comme avant la qualification de la Coupe du Monde. Il y a peut-être des nouveaux choix à faire. Mais je sais.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux choix tactiques à faire.
C'est ça.
Entre autres, un Milan Borjan. Excusez-le, mais là, tu as un Maxime Crépeau qui fait 2 finales des MLS Cup consécutives. C'est lui ton gardien numéro 1. C'est plus Milan Borjan. Ouais.
C'est le temps de considérer Crépeau là, comme gardien numéro 1. Le temps de Borjan, c'est fini. Là. C'est sûr qu'il doit aider à aller en Coupe du Monde.
Mais ça ne sera pas lui à la Coupe du Monde 2026. Fait qu'à quoi bon le continuer à tester?
Exactement. Tu sais, il nous a fait rêver avec ses pantalons dans le froid, mais regarde. C'est le temps que Crépeau prend la relève. Puis c'est ça. Je m'attends à ce que, tu sais, je peux voir dans le futur et tout, mais je m'attends à ce qu'on gagne quand même le match pour passer à la Copa América. Quand même, je m'attends au moins de ça.
Pas le choix, là. C'est Trinidad et Tobago. Là. Ça serait catastrophique.
Mais une fois rendu en Copa América, ça va être très, très difficile si ce même niveau de jeu-là est Ben, si le Canada conserve ce même niveau de jeu-là, c'est pas assez intense. Surtout qu'en Copa América, c'est connu pour être des matchs qui sont chaudement disputés. Donc, le Canada va devoir avoir, tourner la switch, là, comme on dit, pour élever son jeu d'un cran parce que pour l'instant, c'est vraiment pas assez élevé pour lutter dans cette compétition-là. Là.
Tout à fait. Puis Trinidad et Tobago ont quand même gagné contre les États-Unis. Là. Donc, faut pas les sous-estimer non plus. Mais tu dois gagner ce match-là. C'est une catastrophe si tu ne le gagnes pas. Ouais. D'où on a parlé de Biello, là. Hans a parlé de Biello. Si ce n'est pas le gars pour amener cette équipe-là plus loin, là, quand est-ce qu'on le change? Quand est-ce qu'on le remercie?
Écoute, c'est une bonne question. Moi, je ne comprends pas pourquoi. En fait, j'espère que ce ne sera pas lui.
Possible,
qui... J'espère que ce ne sera pas lui qui soit. J'espère que ce ne sera pas lui qui. Qui va être l'entraîneur-chef d'équipe canadienne pour la Copa América. En tout cas, si Canada réussit à se qualifier pour la Copa América, ce serait lamentable. Pour elle. Oublie ça, ils vont se faire humilier là, si c'est le cas. Là. Mais, honnêtement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être prêt à accepter le défi d'entraîner l'équipe canadienne? T'sais?
C'est qu'il faut le faire le plus rapidement possible si on veut changer.
Ouais,
c'est
ça. Ouais.
Parce c'est que sûr, plus t'attends, plus ça donne moins de temps à l'autre entraîneur de se préparer pour la Copa América.
Ouais.
C'est sûr. Okay. Mais déjà, faut battre. Faut déjà se qualifier. Là. Ça, c'est déjà une étape. Mais honnêtement, je ne sais pas. Pour répondre à notre question, j'en ai aucune idée qui pourrait être entraîneur-chef de la sélection canadienne. Je ne sais pas.
Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi, mais je pense que peu importe c'est qui, là, j'espère qu'on est en train de faire des recherches un peu comme du côté de CF Montréal, du côté du Canada, et peu importe c'est qui, il faut le faire rapidement, parce que je pense pas non plus que Biello soit l'option pour aller jusqu'à la Copa América. Puis il faut un renouveau tactique, parce que j'en ai parlé, mais Borjan, tu as aussi des cadres, là, des anciens cadres qu'on continue de faire jouer en défense centrale, mais qui n'ont plus leur place dans un alignement partant, selon moi. Milieu de terrain, un peu la même chose. C'est Junior Oilette. J'ai mes réserves quant à lui. On a des Buchanan, des David, des Davies, des Laria, des Johnston, des Coney. C'est ce genre de joueurs-là qui doivent tout le temps être des partants pour moi. Puis on s'obstine encore à faire jouer des anciens qui ne seront clairement pas là en 2026. Là, donc, je me dis un peu à quoi bon. T'sais, oui, d'être vétéran puis d'appuyer le vestiaire. Mais sinon, je vois pas pourquoi on les utilise autant. Bref, c'était pas mal ça, l'épisode. Je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, une petite note sur un match en fin de semaine ou quelque chose. Liverpool qui vient de gagner tout un match contre Fulham. Un petit mot sur Chelsea, peut-être, Hans, pour conclure avec la victoire sur Brighton.
Ouais, victoire à l'arraché. Gallagher qui prend un carton rouge à la 45e minute, qui n'a pas aidé son équipe. Par contre, beaucoup de... Chelsea a démontré beaucoup de caractère parce que pour jouer à 10 contre une équipe de Brighton qui sait faire tourner le ballon, là, qui c'est pas une mauvaise équipe, ils ont eu chaud, presque un penalty à la dernière minute, mais non, belle performance collective. Enzo Fernandez qui marque ses deux premiers buts en Première Ligue. Donc, il commence à valoir son prix. Thiago Silva aussi qui, avec l'âge, démontre encore que c'est un des meilleurs. Son expérience fait vraiment beaucoup de bien à la défense centrale de Chelsea. Donc, ça va dans la bonne direction, petit à petit. Puis, c'est ça.
Eh bien, merci pour ce petit recap. Et aussi, pour vous informer, Manchester City mène 2-1 contre Tottenham, présentement à la 57e minute. Fait intéressant, Heung-Minson a deux buts, un contre son camp et un pour son camp. Donc, voilà là-dessus. Dou, Hans, merci beaucoup de votre présence, de votre temps.
Merci à toi, Ali, man. Puis merci, Hans, tu sais, ça a vraiment été le fun, guys.
Toujours très agréable, comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Jason Ballon Rond.